Question d'islam par Ghalib Ben Sheikh. Aujourd'hui, nous parlons de derviches, d'ascètes, de soufis et bref, de mystiques musulmans, pas nécessairement dans ce qu'on appelle généralement l'islam central, mais plutôt l'islam périphérique, mais même cette appellation est discutée, discutable, elle n'est peut-être pas tout à fait appropriée. Nous parlons donc de mystiques islamiques en Asie centrale, avec l'un des meilleurs connaisseurs de ce sujet, Alexandre Papas. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Alexandre Papas, merci vraiment de nous faire l'amitié de venir nous édifier sur un sujet aussi passionnant. Vous êtes chercheur au CNRS, directeur de recherche de cette grande institution. Vous êtes historien de l'islam et vous êtes un spécialiste reconnu de la mystique islamique et notamment en Asie centrale. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire de derviche? Alors, on entend parler des derviches tourneurs, mais que veut dire le mot? Son étymologie et son sens sont tout aussi polysémiques. Qu'entend-on par derviche?
Oui, le derviche, alors c'est un mot persan. Pour commencer, donc on se trouve au cœur de l'Asie centrale, qui est un monde très très persanophone historiquement, mais qui est utilisé aussi dans le monde arabe. Le mot derviche est très connu. Alors effectivement, tout le monde connaît un peu les derviches tourneurs, mais au fond, ce n'est qu'une petite partie du monde des derviches, et peut-être pas les plus représentatifs, paradoxalement. Parce que les derviches, selon l'étymologie, ce sont des mendiants, des pauvres, des misérables, ce que ne sont pas nécessairement les derviches tourneurs, qui vivent donc essentiellement de mendicité. Ce sont des vagabonds. Et l'étymologie populaire est très intéressante parce qu'elle signifie très littéralement ceux qui se tiennent à la porte, les darvish. Dar, c'est la porte en persan. Ceux qui se tiennent à la porte en trois sens différents, peut-être ceux qui se tiennent à la porte pour mendier, dans un sens très, très, très simple, très matériel. Dans un autre sens, peut-être plus intéressant, qui est sociologique, ceux qui se tiennent à la porte, sur les bords, au fond, du monde social, ceux qui sont à la marge de la société, on parlera, je pense, de la marginalité sociale. Et puis enfin, ceux qui se tiennent à la porte de Dieu, qui sont en quête d'absolu, qui recherchent Dieu en se tenant sur le seuil de l'expérience mystique. Donc les derviches, ce sont ces trois dimensions en même temps que dit bien le terme.
Et comment expliquez-vous, Alexandre Papas, le glissement de sens qui, certes, dans le monde arabe, est allé plutôt vers le simplet du village, le petit idiot? Alors, parce que le derviche se fait passer pour un idiot, ou c'est effectivement, il y a un sens de ne pas être en pleine possession de ses facultés mentales?
Oui, c'est un peu les deux. Parce qu'il est vrai que dans les milieux de derviches, il n'y a pas forcément que des grands mystiques. On a aussi, eh bien, il faut le dire, des simples d'esprit, des gens qui ne sont pas éduqués. Certains ne sont pas éduqués pour des raisons volontaires et d'autres pour des raisons tout à fait involontaires. Ils viennent de milieux très pauvres et donc on pourrait retracer une sociologie comme ça. Des derviches, mais qui n'ont pas grand-chose de mystique, mais qui sont associés à ces groupes de mystiques et qui sont au fond de simples mendiants et très souvent, effectivement, de simples d'esprit qui aussi font partie des marges de la société qui sont habituellement marginalisées par, disons, la majorité de la société. Mais il y a aussi parmi ces mêmes groupes, donc des gens qui sont ensemble au fond, qui se côtoient en permanence, des gens qui ne sont pas, au contraire, de simples d'esprit, donc des êtres de spiritualité, mais qui, par rapport à un monde plus intellectuel de la mystique musulmane, qui existe, il ne faut pas réduire la mystique musulmane, bien sûr, à ces derviches dont je parle, eux rejettent les formes de connaissance, pour la plupart du temps, d'accès intellectuel à Dieu, et sont essentiellement intéressés par la pratique. Et une pratique qui se veut le plus souvent radicale par rapport aux autres soufis. Donc il y a des tensions comme ça à l'intérieur de la mystique musulmane qui sont intéressantes, entre eux on pourrait dire, hein, d'une part les derviches et de l'autre les soufis. Bien sûr, c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça, puisque les soufis eux-mêmes se déclarent derviches, la plupart du temps, donc très littéralement des pauvres en Dieu, même si ce n'est pas le cas dans les faits. Mais ils le sont de façon symbolique et spirituelle.
Alexandre Papas, dans vos études, vous vous intéressez aux marginaux de l'islam. Et alors, cette marginalité est voulue comme telle, est-ce un défi? C'est cet antinomisme, c'est-à-dire le fait de briser le légalisme drastique de la norme religieuse, et ces ascètes se permettent des choses que le commun du musulman ne se permet pas.
Oui, c'est tout à fait délibéré. Du point de vue des derviches, bon, pour plusieurs raisons. Une première, peut-être, c'est qu'il s'agit de se marginaliser socialement parce qu'ils considèrent que la plupart des fidèles ne sont pas de bons musulmans. Ils ne vivent pas une vie véritablement pieuse. Ils ne le sont qu'à certains moments de la journée, à certains moments de l'année. Bon, et bien le derviche, lui, prétend qu'il faut l'être en permanence. Bon. Ça, c'est une première chose, mais ils ont ça en commun, finalement, avec tous les mystiques musulmans. En revanche, ce qu'il y a de plus spécifique, peut-être, c'est qu'ils s'opposent à deux choses, essentiellement. C'est-à-dire à l'institution des soufis, c'est-à-dire aux formes de confrérie, même si eux-mêmes en ont créé, mais le cadre confrérique les gêne, parce qu'ils pensent que c'est une forme de sclérose de la mystique musulmane, c'est au fond la reconstitution de milieux d'autorité, autorité qu'ils rejettent, parce qu'il n'y en a qu'une, qui est celle de Dieu. C'est la seule qu'ils jugent légitime, et non pas celle d'un maître spirituel, par exemple, et encore moins d'une confrérie, et pas non plus d'une grande famille, par exemple, à la tête d'un groupe. Tout ceci est rejeté par les derviches, à la différence des soufis. Et puis, il y a cette autre caractéristique que vous avez nommée, qui est celle de l'antinomisme, qui est effectivement un rapport à la loi extrêmement problématique, qui consiste soit à la rejeter purement et simplement, soit à la dévier, à la détourner, soit parfois même à la retourner contre elle-même. On a toute une gamme de postures, disons, par rapport à la loi, et peut-être plus généralement aux normes aussi, qui est un ensemble de postures spécifiques aux derviches. Parce que là encore, il y a une opposition par rapport aux soufis, qui le plus souvent sont en fait légalistes, en tout cas dans leur évolution historique, au contraire des derviches, qui considèrent que la loi doit être dépassée, si on veut atteindre une forme de vie spirituelle. Et que, tout au moins, si elle ne doit pas être dépassée, elle doit être réinterprétée à la lumière, disons, des enseignements ésotériques de l'islam.
Dans les cas les plus simples et prosaïques, c'est le fait, par exemple, d'une manière délibérée, boire du vin. Comment ça se manifeste, cette défiance vis-à-vis de la loi en dehors de ce cas précis?
Alors très très concrètement, alors si on part des choses les plus, disons, soft, pourrait-on dire, ou les moins dangereuses, les moins problématiques, bon, il y a par exemple le célibat, mais qui est quelque chose de particulier, qui est quand même singulier, qui va à l'encontre des normes, mais ça encore, bon, c'est tout de même acceptable par la société, parce que ça renvoie à une forme d'ascétisme ancien qui est respectable, mais tout de même,
alors,
c'est une
étrangeté. Alors à l'encontre d'une préconisation du prophète.
Voilà, du prophète, et qui est un modèle suivi très très largement, comme on sait, par les sociétés musulmanes en général et par les soufis en particulier, qui là-dessus ne remettent pas en cause du tout, bien sûr, la norme, disons, prophétique. Donc les derviches, eux, le plus souvent, vivent en célibataire. Un autre aspect important, et puis on va aller de pire en pire, c'est que...
En gradation.
un autre aspect, là encore, qui est acceptable, mais problématique, c'est celui de la mendicité, le fait de ne pas travailler, littéralement, donc de ne pas attribuer de valeur à l'activité humaine, ce qui, là encore, va à l'encontre du modèle prophétique d'une part, des organisations.
Parce que le travail est un acte d'adoration et surtout ne pas vivre comme une charge sur la société.
Voilà, donc c'est vraiment une très très grande valeur en islam, mais qui est rejetée par les derviches pour la même raison qu'elle détourne en fait de la quête spirituelle. Et de façon peut-être plus positive, plus constructive, la mendicité est un acte pieux et non pas du tout une charge, au contraire, puisque c'est la forme la plus humble de vie et celle qui est la plus digne vis-à-vis de Dieu, selon le point de vue des derviches. Bon, ça encore, on sait que, historiquement, dans les sociétés, ça a été quand même accepté. On a, comme ça, des récits de derviches, donc célibataires, d'une part, mendiants de l'autre, et qui sont entretenus par la société, donc acceptés, avec un regard parfois suspicieux, mais malgré tout, on les accepte. Alors, il y a des choses, bien sûr, beaucoup plus problématiques. La consommation de l'alcool, comme vous l'avez mentionné, qui est quelque chose de très répandu, et on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais ce sont des choses qu'on peut voir encore aujourd'hui, même si c'est très minoritaire. On sait qu'il y a toute une ambiguïté sur le vin mystique, le vin réel, etc., l'ivresse mystique. Bon, pour les derviches, il n'y a pas d'ambiguïté. Il ne s'agit pas que d'un vin symbolique, ce sont les deux à la fois. C'est à la fois un vin mystique, à la fois un vin bien réel, une intoxication bien réelle, physique, corporelle, qu'il faut atteindre.
Et même certains produits hallucinogènes.
Et même, oui, j'allais y venir, ouais. Voilà. Et même une série de drogues. Bon, le haschich était et est toujours, pour ceux qui subsistent, consommé de façon tout à fait régulière et fait partie de la vie spirituelle. Il y a des choses aussi qui sont très très particulières aux derviches, qui sont les formes de provocation, l'insulte envers les autorités religieuses, politiques, envers aussi la noblesse sociale, tout ça au nom d'une critique sociale qui est à la base de leur idéal mystique. Donc ça aussi, c'est quelque chose que ne pratiquent pas les soufis, en règle générale, qui sont plutôt des gens pacifistes. Les derviches le sont aussi, mais dans leur comportement, et on a des descriptions historiques intéressantes de comportements violents, d'insultes publiques, et qui leur attirent beaucoup de problèmes, et qui, là encore, sont une forme d'antinomisme, parce que dans ces insultes, il y a les paroles qui relèvent parfois également de l'hérésie, qui sont provocatrices à dessein, pour pouvoir faire bouger les consciences, hein, pourrait-on dire.
Par ce qu'on appellerait des apophtègmes scandaleux, oui, provocateurs, il y a cette idée, cette anecdote, que je ne sais trop, mais vous allez me le dire, un grand savant qui n'osait plus passer par telle ruelle parce qu'il y a un derviche qui risquait de l'apostropher en l'insultant, mais un beau jour, il y passait, l'a vu plutôt en prière.
Oui, c'est ça. C'est une charmante anecdote racontée par un auteur musulman donc du 15e siècle. Donc on est à Herat, aujourd'hui en Afghanistan, à l'époque une grande ville prestigieuse de l'Asie centrale timoride. Au 15e siècle, et donc cet auteur, qui s'appelle Ali Shir Navoi, nous décrit la ville et ses différents groupes professionnels, etc. Et le dernier, ce sont les derviches. Et à travers cette description, eh bien, il parle d'un certain nombre d'individus qu'il nomme, donc il connaît bien, qu'il a lui-même rencontré. Effectivement, il y a celui-ci qui fait peur un peu à tout le monde. Et qui insulte, qui a l'habitude, dit-on, d'insulter les gens. Alors que, en réalité, en fait, il faisait sans doute pratiquer sans doute les deux, c'est-à-dire l'invective, l'apophtègme, effectivement, provocateur. Mais d'autre part, également, une vie de prière permanente, une cantillation constante, etc., qui, au fond, sont peut-être les deux aspects de la vie du derviche vagabond tel qu'on peut l'imaginer à l'époque.
Alors, revenons, si vous voulez bien, Alexandre Papas, à la notion de pauvreté voulue comme telle, parce qu'ils ont intériorisé un verset coranique qui présente les créatures, et notamment les êtres humains, comme les pauvres devant Dieu. Et donc, eux, ils incarnent cette pauvreté à l'extrême, donc en vivant de mendicité et en se présentant comme des fakirs, c'est le mot même du pauvre.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le fakr, donc, qui a donné le fakir, la pauvreté, donc, qui donne le mot pauvre, misérable, c'est un concept qui revient constamment dans les paroles et les écrits, quand il y a des écrits des derviches. Parce qu'au fond, c'est à la fois un mode de vie, un mode de pensée, et également une tradition littéraire poétique qu'il porte, qui chante la pauvreté. Du point de vue du mode de vie, c'est intéressant parce que il suppose soit une mendicité dans la rue, tel un mendiant comme un autre, sauf que les raisons sont religieuses, mais c'est aussi une forme d'errance, puisqu'il s'agit très concrètement d'aller d'un mausolée à l'autre, d'une fête à l'autre, par exemple, pour aller mendier, parce que ce sont des moments privilégiés de collecte d'aumônes, mais qui sont associés très directement à une vie de pérégrination, de pèlerinage, au fond, permanente. Donc, on voit, il y a toujours cette double dimension, et le mot de fakr le dit bien, entre les choses très concrètes, très pratiques, et également des valeurs symboliques qui sont attribuées à ces pratiques tout à fait concrètes. Et sur le fakr, du point de vue disons, des enseignements initiatiques associés à la pauvreté volontaire, il y a peut-être deux choses à retenir, qui est d'une part la volonté de ne jamais s'enrichir, de ne jamais thésauriser, de ne pas posséder, hein, puisqu'au fond, il s'agit d'être complètement nu, dans tous les sens du terme, face à Dieu. Et puis un autre aspect, qui est celui effectivement de l'appel coranique et aussi prophétique, même s'il n'est pas nécessairement suivi, de la pauvreté comme valeur, comme vertu, comme excellence, et au fond comme destination de l'existence.
Il y a cette idée que l'ange Gabriel avait proposé au prophète les trésors du monde entier, mais il les a rejetés par souci de pauvreté et d'indigence devant Dieu. Et donc les derviches particulièrement, et d'autres soufis, spéculent, si je puis dire, sur le mot même « fakr », dans sa racine trilitaire, en disant que chaque lettre renvoie quelque chose, et notamment le F à la notion du fath qui donne victoire, ouverture, etc. Et les deux autres lettres renvoient à quoi?
Il y a différentes versions, mais le Q c'est qanaat, qui est, c'est-à-dire le contentement, on pourrait dire. Donc le contentement, il s'agit de se contenter de ce que vous donne Dieu. Et bien à travers les fidèles, c'est Dieu qui donne, au fond, à travers l'aumône, à travers ce qui va vous arriver dans l'existence, eh bien il faut se contenter de cela. Et puis souvent le troisième terme, c'est riazat, donc c'est plutôt là les exercices ascétiques, les mortifications, etc., qui sont effectivement pratiqués par les derviches, par exemple sous forme de jeûne, mais beaucoup plus long que le jeûne qu'on vient de connaître, qui sont des formes de ramadan beaucoup plus réguliers, beaucoup plus austères, etc., qui sont pratiqués parmi les exercices ascétiques des derviches. Donc les derviches aiment bien effectivement donner des définitions de ces termes, donc réexplorer les concepts qu'ils utilisent eux-mêmes pour les enrichir et pour leur donner des significations parfois très ésotériques et qui renvoient aussi à une certaine science, une lexicographie mystique qu'ils préconisent très très souvent.
Donc ils voient dans la pauvreté à la fois une victoire et conquête spirituelle, un contentement, une satisfaction de ce qu'on a, et en être ravi, heureux en tout cas, et puis des exercices ascétiques. C'est ça l'ensemble la notion de pauvreté. Voilà. Nous verrons tout à l'heure comment ils affichent tout ça, y compris, vous avez parlé de cette nudité, la nudité primordiale de l'homme devant Dieu, et comment ils la couvrent. On parlera de ceinture, on parlera de bonnet. Continuons dans ces notions d'ascèse, et de présentation, peut-être même pour être dans la répulsion. Pourquoi sera-t-il le crâne, la barbe, les moustaches, voire les sourcils?
Alors là encore, c'est quelque chose de très particulier, même si on trouve des formes de pratiques de tonsure, pourrait-on dire, chez des soufis non radicaux, pourrait-on dire, non antinomiens. Mais c'est simplement au moment des initiations. On sait qu'il y a des rituels initiatiques de tonsure dans des ordres soufis. Pour les derviches, bon, c'est quelque chose de très particulier. Effectivement, il s'agit de se raser, donc parfois entièrement. Donc, il y a plusieurs explications qui sont données. Il y a plusieurs dimensions. Là encore, il s'agit d'aller contre la norme. Le port de la barbe, on le sait, est quelque chose de valorisé. Bon, eh bien, on va à l'encontre de cette norme. Les cheveux courts aussi peuvent l'être. Eh bien, on va à l'encontre ou plus loin, peut-être, que cette norme, donc en rasant entièrement les cheveux. Mais on va plus loin que tout cela, puisqu'on coupe, comme vous l'avez dit, les sourcils, la moustache, etc. Pour sans les dire, d'une part, mais il y a un autre aspect intéressant, mais le premier but, il s'agit de sans les dire, de devenir laid pour être repoussant, pour pouvoir non seulement empêcher toute forme de désir, d'attirance, quelle qu'elle soit, mais aussi pour être rejeté, volontairement rejeté par l'entourage également, quel qu'il soit. Alors ça, c'est un aspect intéressant, celui de l'enlaidissement volontaire, qui va aussi avec des formes de vêtements, etc., dont on parlera peut-être. Et puis, il y a aussi la volonté de revenir à une nudité primordiale et de paraître comme un enfant, au fond, comme un petit enfant jeune, encore une fois, dans la nativité, si on veut, de la vie spirituelle par rapport à Dieu. Hein, pour revenir à l'innocence fondamentale de l'être humain, et du fidèle par rapport au Créateur. Thank you.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de ces marginaux de l'islam, particulièrement en Asie centrale. Nous parlons des derviches, des ascètes, de certaines formes extrêmes de soufisme, avec Alexandre Papas, directeur de recherche au CNRS et spécialiste reconnu de ces derviches, de ces calendars. Qu'est-ce que c'est qu'un calendar, Alexandre Papas?
Alors là, le terme de calendar, qui est également un terme persan, pose beaucoup de questions. En fait, on ne sait pas vraiment d'où il vient. On le renvoie à des termes de vieux perse, de la langue ancienne du persan, qui correspondrait peut-être au terme de salandar, on ne sait pas bien. Bon, d'après les savants iraniens, il s'agissait également de mendiants, ces calendars, autant qu'on puisse le dire, dans des formes peut-être pré-islamiques. Et c'est intéressant, même si on n'en sait pas beaucoup plus. Donc on aurait affaire à une vieille terminologie, à une titulature ancienne, qui serait reprise par les mystiques musulmans. Voilà, ouais. Ce sont les hypothèses que l'on avance à propos du terme de calendar. Alors les calendars, on a calendaire en turc, calendar en persan, est utilisé dans tout le monde, disons, turco-persan. Donc c'est un terme bien identifié.
Et en langue arabe, on parle de calendaria.
Et on a la calendaria, effectivement, qui peut vouloir dire des courants mystiques, mais également un genre littéraire, de la calendariat, par exemple, qui parle, en fait, de mendicité, d'ivresse mystique, etc. Bon. Donc les calendars, c'est tout ça. Sauf qu'il ne s'agit pas que de figures littéraires, bien sûr, ni de figures légendaires rapportées par les hagiographies, mais de véritables personnages qui se sont présentés comme tels. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur le terme, je pense. Et le plus souvent, il est presque synonyme de derviche. À ceci près que lorsqu'on parle de calendar, ça renvoie à une tradition peut-être plus spécifique, historique, de gens qui ont porté ce nom et qui seraient originaires à peu près dans leur structuration, disons, au XIIIe siècle.
Alors, vous avez évoqué, nous avons parlé de l'aspect extérieur de ces derviches, de ces marginaux. D'abord, ils sont les dix eux-mêmes d'une manière voulue et délibérée. Et leur aspect vestimentaire très réduit consiste en une bure, des robes en laine, des bonnets. Comment les choses se présentent-elles?
Oui, si on devait décrire un derviche à travers l'histoire,
on a vu dans l'iconographie classique, oui, même certains peintres occidentaux qui s'y intéressent.
Oui, c'est vrai qu'au XIXe siècle, ils ont été beaucoup fascinés. On a aussi des photographies à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, très intéressantes de derviches qui correspondent d'ailleurs assez bien aux peintures orientalistes et aussi aux miniatures dans l'art ottoman, par exemple, ou iranien. Donc on peut à peu près identifier les derviches d'après cette tradition iconographique. Alors effectivement, ils se présentent le plus souvent avec une bure, un manteau de laine, soit de toile de jute, encore plus rudimentaire que de la laine. Et aussi, une chose intéressante, c'est qu'il est parfois fait de plusieurs étoffes, une sorte de patchwork, qui est aussi tout à fait intéressant et frappant au regard. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on identifie chez le derviche.
Pardon, Alexandre Papas, vous avez évoqué le patchwork, que je vous interromps. C'est parce qu'il y a cette notion d'avoir... On est en haillon et on les coud pour finalement récupérer des formes de lambeaux, et c'est comme ça qu'on réussit à avoir un patchwork.
Oui, voilà, c'est ça. Donc il faut essayer de s'imaginer les choses très très concrètement. Une vie de mendiant, et bien il faut s'habiller, les vêtements s'usent, etc. On trouve ça dans les poubelles, dans la rue ou par des dons, et on confectionne comme ça sa bure de façon très simple à l'aide de bouts de tissu disparates et noués de façon extrêmement grossière. Mais la chose intéressante, et c'est toujours ça qui est fascinant, je pense, avec les derviches, c'est que cet acte comme ça, très concret, très simple, très matériel, porte des significations, encore une fois, symboliques, je ne dirais pas doctrinales, mais disons ésotériques, très intéressantes. Je peux en parler un tout petit peu, si vous voulez. C'est que ces différentes parties de la bure, du derviche, renvoie de façon tout à fait mythique à des héritages prophétiques. Tel prophète aurait possédé telle partie de tissu et on ne récupère pas les mêmes. Elles se sont transmises, ces bouts, ces parties de tissu, de génération en génération, des prophètes, jusqu'au monde des derviches. Et elles portent chacune ces parties, eh bien, une valeur dont on a parlé tout à l'heure, par exemple, comme le contentement, la modestie, je sais pas, que sais-je encore, bon. Avec cette légitimité et en même temps cette force symbolique d'une origine prophétique et qui leur confère également un statut de relique. Un autre développement ésotérique intéressant, c'est la façon de nouer. La façon de nouer ces différentes parties du tissu, donc pour reconstituer les haillons, font l'objet également d'une pratique elle-même spirituelle, parce qu'il s'agit de renouer au fond les enseignements initiatiques. En nouant le vêtement, on renoue ces différentes parties et on réunifie au fond l'enseignement tiré des prophètes et qui s'est transmis jusqu'au derviche. Donc l'acte lui-même, il est accompagné de chants, de prières rituelles, etc. L'acte même de constituer le vêtement soufi, aussi grossier soit-il, eh bien porte un enseignement spirituel.
Alors, le vêtement, d'une manière générale, est composé aussi de bonnets.
Oui. Alors, le bonnet aussi, c'est quelque chose qu'adorent les derviches. Lui aussi, alors, fait l'objet, de façon tout à fait analogue, hein, à la bure, de rituels de prière pendant qu'il est confectionné. Il peut être fait également de feutre, de laine, de bouts de tissu différents. Donc on a des descriptions hein, très concrètes du bonnet du soufi. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de le situer dans le contexte des coiffes musulmanes en général, parce que au fond, il s'oppose à ces coiffes. On sait que par exemple le turban, c'est quelque chose de très prisé, pas seulement, disons, par les grandes autorités musulmanes, bon, que ce soit les savants, les juristes, également les maîtres, les leaders, disons, soufis. Bon, d'une certaine manière, le bonnet du derviche s'oppose au turban et à son prestige, et même, on a un certain humour de derviche qui moque les soufis qui sont très chics, qui sont bien habillés, qui portent de la soie, etc. C'est quelque chose dont il va à l'encontre. C'est une pratique qui va à l'encontre de ces coiffes très prestigieuses et qui identifie immédiatement un personnage. Bon, eh bien, pour le derviche, il s'agit aussi de s'identifier, d'être identifié très rapidement et qu'il n'y ait pas de confusion avec les autres,
oui,
à travers le bonnet.
Le contre-argument des soufis, c'est de dire « je suis un mystique adorateur de Dieu à ma manière, mais je veux me confondre dans la masse en étant incognito par ma tenue avec un turban qui pourrait peut-être me confondre avec un notable de la cité. »
Oui, tout à fait. Oui, ça c'est vrai que ça c'est un argument très fort du point de vue partagé par les soufis, auxquels s'opposent les derviches. Et là, on a quand même affaire à deux mondes assez différents, même s'ils ont beaucoup de points en commun, puisque c'est exactement l'inverse. Hein, pour les derviches, il s'agit de se distinguer, parce que paradoxalement, c'est en se distinguant qu'on se préserve, donc on a un raisonnement qui est tout à fait inverse, hein, qu'on se préserve d'une récupération, c'est-à-dire du fait de devenir comme les autres, de devenir soi-même non plus un mystique, mais un savant musulman, ou un juriste, ou une autorité spirituelle, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa valeur.
Ou même une autorité politique.
Ou une autorité politique, bien sûr, voilà. Autorité auquel il s'oppose très, très régulièrement, voilà, de façon assez anarchiste. Bon, le terme est bien sûr tout à fait impropre, mais bon, il dit assez bien, je crois, l'attitude parfois de ces derviches. Et puis, je crois plus fondamentalement, ce qu'il y a d'intéressant également, c'est qu'en mettant en valeur ce vêtement soufi en permanence, le bonnet, la bure, on pourrait parler du bâton de pèlerin, et peut-être d'autres, le bol de mendiant, etc. Bon, tous ces objets très matériels, dont souvent, qui en fait souvent suscitent des accusations de la part de leurs ennemis, puisqu'on leur dit, vous n'êtes au fond qu'une enveloppe de soufis, tout ça c'est le charlatanisme, vous ressemblez à des soufis, mais vous n'en êtes pas, et tout ça ne se réduit qu'à un accoutrement. Pour les derviches, au contraire, c'est l'aspect le plus superficiel, c'est l'enveloppe qui dit la vérité. Donc c'est un paradoxe vraiment assez fascinant, c'est-à-dire que c'est le paraître qui exprime le plus la vérité et non pas l'inverse. Donc on a une dialectique assez intéressante de l'ésotérique et de l'exotérique, pourrait-on dire. de l'apparent et du réel et de la vérité à travers l'aspect physique du derviche lui-même.
Et dans ces accoutrements improbables, il y a la notion importante de la ceinture, et qui a aussi une valeur ésotérique. Ça va depuis la ceinture, ce qui a pu ceindre Adam avec la feuille de vigne, et ça va jusqu'à la ceinture du prophète de l'islam, et chacune d'elles, dans ce genre littéraire que sont les mirabilia, a une vertu extraordinaire et merveilleuse, passant par la ceinture de Salomon qui lui confère des prodiges et un pouvoir surnaturel.
Oui, alors les derviches reprennent ces traditions, ce ne sont pas les seuls bien sûr, mais eux, comme d'habitude, ils le font de façon très concrète, puisque ils le prétendent, hein, posséder des ceintures aux vertus spirituelles elles-mêmes, qui sont des héritages prophétiques, qui sont tirés des prophètes, et ils citent, hein, ils citent Adam, ils citent le prophète Mohammed lui-même, et également Salomon, et tout un ensemble en fait.
Toute la chaîne prophétique,
jusqu'aux ascètes et jusqu'aux derviches. Donc ce sont les héritiers de cette tradition, mais l'intérêt de la chose du point de vue des derviches, c'est que il porte effectivement ses ceintures, et on a des exemples hein, très très concrets à travers l'iconographie, encore une fois, de ceintures, et qui font l'objet d'un rituel initiatique. Donc, lorsqu'on entre dans une confrérie de derviches, un groupe de derviches, eh bien, on acquiert au bout d'un moment c'est au cours de l'initiation et non pas au début, au moment de la réception, on acquiert la ceinture des derviches et qui est attachée par le maître lui-même, et ça symbolise l'entrée pleinement dans la confrérie des derviches, et également l'acquisition de ce savoir qui est manifesté par la ceinture. Donc on voit que voilà, dans le mode de vie très quotidien finalement des derviches, eh bien il y a toujours ces significations qui sont portées, et on est constamment dans une expression très visible au fond de la mystique, alors même qu'elle semble comme ça échapper à la matérialité, c'est le contraire.
Oui, il y a quelque chose qui m'avait semblé paradoxal, ou du moins qui connaît une certaine inflexion. Pour revenir aux cheveux et le fait de raser le crâne, dans un premier temps, pour en tout cas le novice, il fallait avoir plutôt les cheveux longs.
Oui.
Va depuis l'oreille jusqu'à l'épaule, et c'est pour ça qu'on voit les derviches dans un premier temps plutôt aux cheveux hirsutes. Ça rappelle un peu les sadous ou les boses.
Oui. Oui.
Et après, ils se rasent le crâne. Alors, au bout de quand passe-t-on d'une chevelure un peu fournie jusqu'à ne rien avoir?
Encore une fois, ça dépend hein, des groupes, parce qu'on trouve à peu près toutes les formes possibles. D'ailleurs, certains ne pratiquent ni l'un ni l'autre, ne se préoccupent pas tellement des cheveux. Ça dépend vraiment. En fait, la plupart du temps, tout de même, le rasage complet est au début de l'initiation. Et le fait de laisser les cheveux longs, c'est tout de même prévu, la plupart du temps, on peut pas trop généraliser, mais la plupart du temps, c'est prévu pour ceux qui sont les derviches les plus avancés.
Ah bien, c'est plutôt dans l'autre sens.
C'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que ceux qui sont capables, au fond, de vivre de façon aussi sauvage, pourrait-on dire, donc les cheveux hirsutes et l'ensemble de ce qui va avec, hein, c'est-à-dire de une mendicité radicale, de la solitude, etc., ce qui n'est pas souvent le cas au début. Hein. Alors, au début, il faut être encadré, si on peut dire. Et par la suite, avec la maturité, avec une meilleure compréhension des enseignements ésotériques des derviches, eh bien, on peut se laisser aller aux cheveux longs, parce qu'au fond, tout ça n'a plus beaucoup d'importance.
Et comment traite-t-il le polyptique loi, voix, vérité et gnose, un peu dans ce sens-là, un peu classique dans l'approche soufie. Alors j'ai cru comprendre que pour la loi, bon, il y a un antinomisme réel et donc il la dépasse. Et alors que font-ils pour la voix, la vérité et la connaissance?
Alors, ils suivent aussi hein, ce triptyque classique. Alors, effectivement, en mettant entre parenthèses, disons, la loi, même si parfois, il faut quand même le dire, je le dis au passage, ils continuent de s'en réclamer pour certains. Ils continuent de dire qu'ils respectent la loi, même si, en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Mais ils ne disent pas comment ils l'entendent. Bon. Le deuxième concept, disons, celui de la voie spirituelle, ils sont comme les soufis, c'est-à-dire qu'il faut suivre une voie spirituelle, il y a un cheminement, même si certains prétendent qu'ils peuvent l'atteindre très vite, de façon immédiate, mais au fond, certains soufis aussi le prétendent, hein, par élection divine. Bon, chez les derviches, il y a cette forme de rapidité qui est parfois prétendue, donc on n'a pas à suivre une voie mystique sur 10, 20, 30 ans, comme c'est le cas chez la plupart des soufis. Donc ils ont quand même une interprétation particulière de la voie, mais bon, on retrouve sinon les mêmes, c'est-à-dire qu'il s'agit de passer des étapes, etc. On retrouve ces différentes stations spirituelles, on retrouve ça chez les soufis. Ils sont vraiment de ce point de vue très proches. Chez les derviches, ils sont de ce point de vue très proches des soufis. En revanche, sur un deuxième sens de la voie sur la définition, disons, organisationnelle, institutionnelle sur la tariqa comme confrérie, pourrait-on dire, comme ordre soufi. Là, il y a une différence. Ces deux sens sont gardés par les soufis. Pas ce deuxième sens chez les derviches qui sont très réticents à toute forme d'institutionnalisation, donc d'organisation confrérique de la voie spirituelle, du cheminement spirituel. On peut le dire comme ça. Sur la vérité, la réalisation mystique, là encore on est très proche. Hein, des soufis, on retrouve les mêmes définitions, sauf peut-être que il y a quelque chose, il y a davantage d'insistance sur des formes d'illumination, de vision, même si on retrouve ça hein, chez les soufis, mais chez les derviches c'est très présent. On a beaucoup de récits comme ça d'illumination à la suite d'expériences de folie. Mystique, de rapt, etc., d'ivresse, c'est quelque chose là qui fait quand même, qui constitue une certaine différence avec la vérité selon les soufis, qui a souvent malgré tout une définition plus intellectuelle, plus savante, alors que comme d'habitude les derviches se méfient un petit peu de toute forme de définition intellectuelle ou conceptualisante de la vérité lorsqu'il s'agit d'expériences spirituelles.
Donc ils vivent, eux, une réelle mystagogie. En tout cas, il y a du mystère dans ce qu'ils intériorisent. Et ils passent dans l'étape de la gnose, dans un anéantissement, en réalité, en voilà. Dieu. Et il y a ces deux canaux pour arriver à cela. Soit le ravissement, parce qu'ils sont ravis à eux-mêmes, ravis par Dieu, mm-hmm. en réalité. Soit l'itinérance soulouk. Soit les deux,
oui. Très souvent, bien c'est ce qu'on cherche. Hein. C'est ce qu'on cherche dans cette itinérance. On cherche des occasions, au fond, d'être ravi par Dieu. Et c'est vrai que il y a toutes ces descriptions, en fait, d'itinéraires de vie, qui sont aussi des itinéraires géographiques, qui sont des errances, pourrait-on dire, des voyages initiatiques. Bon, on retrouve ça aussi hein, chez les soufis. Mais c'est vrai que chez les derviches, au fond, ça ne s'arrête jamais. Enfin, jusqu'à ce que, dans l'espoir, hein, jusqu'à ce qu'on trouve cette élection divine, qu'on soit attrapé par lui. Donc ce qu'il s'agit de faire, c'est de favoriser cette opportunité, cette occasion unique d'atteindre la vérité mystique par ce moyen. Et non pas tellement, il faut le dire, hein, non pas tellement par l'étude, non pas tellement par un enseignement régulier auprès d'un maître, tout cela n'apparaît que très rarement hein, dans les écrits des derviches.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de derviches, pas encore de derviches tourneurs, mais nous y viendrons, d'ascètes, de marginaux, de soufisme poussé à l'extrême, dans des configurations particulières. avec le maître, si vous me permettez, incontesté du sujet, Alexandre Papas. Vous êtes un spécialiste reconnu de la mystique islamique en Asie centrale particulièrement. Et donc vous nous parlez de ces marginaux sous prétexte de mystique, sincères ou affectés. Et alors, pour comprendre... Parmi les derviches, il y a ceux auxquels on accole l'épithète tourneur, parce que bon, ce sont des gyrovagues, ils tournent. Et quel est ce sont ceux qui ont suivi l'ordre, dit-on, fondé par Jalaluddin Rumi, mort en 1273. Quelle est leur spécificité?
Alors effectivement, on parle de derviche tourneur, ce qui est un terme un petit peu impropre, qui est d'ailleurs issu de l'orientalisme du 19e siècle, qui met beaucoup les derviches tourneurs dans l'Empire ottoman. C'est vrai qu'ils utilisent eux-mêmes dans les écrits de Rumi lui-même et aussi de ses successeurs, on utilise le terme de derviche. Mais il ne s'agit pas au sens strict du terme de dervis, il s'agit vraiment de soufis, on devrait dire des soufis tourneurs, si vous voulez. Et le fait de parler de tourneurs vient de la danse qu'ils pratiquent. Donc ce ne sont pas des gyrovagues au sens strict, c'est-à-dire ce ne sont pas des vagabonds. Il n'y a pas de pérégrination, d'errance initiatique chez les derviches tourneurs. Donc le terme ottoman, c'est Mevlevi, tiré de Mevlana, qui est la prononciation turque de Maulana Rumi. Bon. Donc on parle de Mevlevi.
Notre maître.
Voilà. Et c'est Mevlevi, si on doit employer le terme. Donc tournent sur eux-mêmes, selon une technique très particulière, très élaborée d'ailleurs, de danse, au cours de concerts mystiques, de Sama, tel qu'on l'appelle dans la terminologie soufi. Il n'y a pas que les derviches tourneurs qui dansent, bien sûr, dans les confréries soufis, il y en a beaucoup d'autres. Mais ce sont ceux qui ont peut-être la technique la plus élaborée, la plus complexe, peut-être la plus belle aussi, de façon sur le plan esthétique, et qui elle aussi porte un ensemble d'enseignements. Le fait de tourner suppose une ascension au cours de ce tournoiement, une ascension spirituelle et un lien entre la terre et le ciel qui est manifesté par le corps même du derviche tourneur.
Une main tendue vers le ciel et l'autre vers la terre nourricière, voilà, et l'influx passe à travers le corps.
Donc voilà pourquoi on parle de derviche tourneur à leur sujet. Mais c'est un monde, malgré tout, relativement différent de celui des derviches, disons, au sens strict du terme, d'Asie centrale. Parce que, par exemple, il n'y a pas de derviche tourneur du tout en Asie centrale. Il n'y en a pas en Inde non plus, dans les grandes terres, si on veut, du dervichisme. Il y en avait essentiellement sur les terres de l'Empire ottoman, donc en Anatolie, bien sûr en Syrie.
Et ceux-là sont propres sur eux, sont très bien. Leur bonnet, leur coiffe est très belle. Ils sont habillés en blanc, immaculés.
Oui, là, il y a vraiment une idée de pureté et aussi de logique de pureté tirée des ablutions et qui va aussi à l'extrême, c'est-à-dire dans une culture du corps qui tend à la pureté la plus absolue.
Bon, pour cette dernière partie de l'émission, Alexandre Papas, que reste-t-il de nos jours? Y a-t-il une contemporanéité ou une place à ces derviches marginaux, que ce soit en Asie centrale ou un peu partout, eu égard à la mondialisation dans le monde?
Alors, si on regarde l'Asie centrale aujourd'hui, mon livre s'arrête au début du XXe siècle. Pour une raison simple, c'est que la plupart des derviches disparaissent. Alors non pas les soufis, il y a des confréries soufis très puissantes encore jusqu'à aujourd'hui, qui ont survécu à la période soviétique. Mais pour ce qui est des derviches, disons des marginaux, des mystiques musulmans les plus marginaux, ils ont disparu au cours du XXe siècle, au début du XXe siècle. Pour plusieurs raisons, ce sont des victimes d'une part de la modernisation en général, de la colonisation, également qu'elles soient russes ou chinoises d'un côté comme de l'autre, et également, on le dit pas assez, mais du réformisme, une forme de réformisme musulman, y compris d'ailleurs soufi, qui s'opposait de façon tout à fait frontale à ces formes marginales qui posaient un problème d'ordre public, d'hygiène par exemple. Également d'images de l'islam, donc qui ont voilà tous ces reproches qui étaient adressés aux derviches se sont manifestés très concrètement par des interdictions administratives à travers le territoire et qui ont fait disparaître. On a interdit la mendicité par exemple, qui ont fait disparaître ces groupes de derviches dont on a encore quelques photos pour la fin du 19e début du 20e siècle. Donc en Asie centrale, on peut dire qu'aujourd'hui, bon, il y en a quasiment plus. On retrouve une petite forme aujourd'hui en Asie centrale chinoise de ces vagabonds mystiques qui vont d'un lieu de pèlerinage à l'autre. Mais je crois qu'ils le sont, c'est un peu difficile de travailler sur eux pour des raisons qui tiennent à la politique de cette région aujourd'hui. Mais ce sont, je crois, des derviches par intermittence, pourrait-on dire, qui, par ailleurs, sont des artisans, bon, des gens simples, hein. Certainement pas dans des milieux de commerçants, sont plutôt des petits gens, disons, et qui vivent par certains moments de l'année, comme ça, de mendicité, mais avec des bonnets de derviche, des burs rapiécés, des cheveux longs. Voilà, moi j'en ai croisé quelques-uns au cours de d'enquêtes de terrain dans les régions ouïghours au Xinjiang dans les années 2000. Donc on a encore quand même bon des formes résiduelles qui existent.
Y a-t-il des formes de syncrétisme avec par exemple les ascètes de l'hindouisme? Tout à l'heure, j'ai évoqué des sadhus, des bowls, y a-t-il peut-être même des, je ne dirais pas des offices, mais certaines concélébrations avec eux ou pas?
Oui. Alors ça existe. Et on peut considérer que le dernier lieu, bon, pas le dernier, mais le lieu privilégié des derviches aujourd'hui, dans le monde contemporain, dans le monde actuel, c'est l'Inde et également le Pakistan. Et peut-être un peu l'Afghanistan, bon, mais c'est essentiellement en Inde. Donc, effectivement, en Inde, on a des groupes entiers de derviches, la plupart correspondant tout à fait aux gens dont on vient de parler, c'est-à-dire hirsutes. Mais certains sont rasés, mais d'autres ont les cheveux longs. Ils portent soit ils sont nus, exactement comme les sadhus, les sannyasins, etc. Dans le brahmanisme, dans l'hindouisme. La plupart du temps, on n'a pas de rituel commun, même si souvent les ascètes hindous, eux, s'invitent très facilement sur les lieux saints musulmans. Ce que font beaucoup moins les derviches, les musulmans de l'Inde, le font beaucoup moins. Mais bon, c'est un monde qui se côtoient de façon tout à fait quotidienne. Et qui sont très analogues lorsqu'on regarde tout simplement le paysage religieux de l'Inde aujourd'hui. Bon, les sadhus et les derviches, les kalandars, on les appelle les malangs aussi beaucoup, en Inde et au Pakistan, sont tout à fait ressemblants. Et on retrouve les mêmes pratiques, hein, c'est-à-dire l'itinérance spirituelle, le fait de ne pas avoir de possession matérielle, la consommation de hashish presque quotidienne.
Comment se procurent-ils ça coûte de l'argent alors qu'ils sont mendiants?
Bah, souvent, on leur distribue, et c'est vrai que dans certaines régions, bon, ça pousse à peu près partout de façon très libre. Moi, j'ai vu ça, hein, dans pas mal de régions de l'Inde et du Pakistan. Donc, c'est très facile de s'en procurer. Et encore une fois, la mendicité, eh bien, permet malgré tout de se fournir en substances diverses et également dans les matériaux qu'il faut, les shilom, etc., qui sont utilisés par les derviches. Et de façon, c'est ça qui est aussi intéressant, de façon tout à fait ouverte. C'est-à-dire que personne ne va remettre en question cette pratique. Ça fait partie de l'ordre des choses et on accepte cette bizarrerie, disons, religieuse est parfaitement acceptée par le...
Alors que les jurisconsultes les pourchassent en quelque
absolument,
sorte.
Absolument, oui, absolument. Et donc on parle par exemple d'un pays comme le Pakistan, qui est quand même une république islamique, mais les choses sont toujours compliquées. Il y a évidemment des oppositions très fortes, parfois même des attaques, hein, ou des interdictions tout au moins, de l'existence de ces groupes. Bah, malgré tout, ils existent toujours, ils existent encore, ils n'ont pas été éradiqués comme dans d'autres parties du monde musulman. Et c'est vraiment là qu'ils sont le plus actifs aujourd'hui, hein, sur l'échelle du monde musulman.
Y a-t-il dans la dévotion populaire cette fois-ci cette idée d'aller se rapprocher d'eux parce qu'ils seraient porteurs de bénédictions? Donc leur donner l'aumône, c'est peut-être via ces derviches, on a là une intercession je mets le mot entre guillemets, parce qu'il n'y a que le prophète qui serait l'intercesseur par excellence, ou du moins la relation est ex abrupto avec Dieu, elle est directe. Mais dans la dévotion populaire, on pense qu'il serait des canaux, des instruments, si je puis dire, de rapprochement de Dieu.
Oui. C'est toujours le cas aujourd'hui. Encore une fois, en Inde, au Pakistan... Dans certaines régions aussi de l'Iran, où il y a des formes également résiduelles, on retrouve exactement ce sentiment par rapport à ces marginaux. Effectivement, obtenir leur intercession, leur faire l'aumône, tout cela est supposé extrêmement bénéfique pour les vœux qu'on peut leur demander très directement, mais également pour l'au-delà, dans son capital de bienfaisance. C'est quelque chose qui est très estimé, parce qu'ils sont plus misérables que les autres, mais peut-être aussi, et c'est toute l'ambiguïté de leur position sociale et religieuse, c'est qu'ils sont peut-être plus saints que les autres. Il y a constamment cette ambiguïté de la part des sociétés en général, que ce soit en islam d'ailleurs ou ailleurs, vis-à-vis de ces personnages. Et c'est intéressant de l'observer aujourd'hui dans le monde contemporain, mais également à travers l'histoire. On a constamment cette ambiguïté des gens qui sont d'un côté rejetés, parfois exécutés, enfermés, etc. Et puis de l'autre, une fascination, peut-être qu'on partage tous, pour des personnages hors normes qui sont... eux-mêmes ambigus, on ne sait pas s'ils sont authentiques ou pas, on ne sait pas s'il s'agit de tout simplement de miséreux ou de personnes saintes. Mais toujours est-il que, dans le doute en tout cas, on continue à être fasciné par ces personnages et à leur attribuer des pouvoirs surnaturels que n'auraient pas les autres.
Peut-être pour une dernière question, si vous voulez bien, Alexandre Papas, joue-t-il d'instruments de musique? Y a-t-il des séances de chant? Ou y a-t-il un ney, une flûte spécifique pour eux? Ou comment se présente-t-il sur ce plan?
Oui, alors les derviches aiment beaucoup la musique. En règle générale, danser, chanter, c'est quelque chose qu'ils pratiquent beaucoup. Parce que ce sont aussi des occasions de moments extatiques. Le plus souvent, leur musique est très rudimentaire. Et les instruments les plus fréquents sont le daf, qui est une grande percussion ronde iranienne, mais dont on trouve des formes aussi dans le monde arabe. Et également un autre instrument qu'on appelle le sipai, que j'ai beaucoup de mal à traduire, c'est une espèce de clave, qui sont deux bâtons avec une chaîne, donc quelque chose qui est extrêmement simple, hein. On n'a pas affaire à un violoncelle, ou à un kamanché, ou que sais-je, c'est quelque chose vraiment d'extrêmement simple, mais donc qui rythme des chants, qui sont souvent des oraisons, des chants élégiaques, et qui sont de la poésie de derviche. Parce qu'il faut dire que, à l'intérieur de cette culture musicale de chant, il y a une tradition poétique très riche des derviches qui chantent en fait eux-mêmes leur propre existence à travers leur héros, les aventures qu'ils peuvent vivre, etc., qui sont chantées pendant ces concerts spirituels qui sont organisés par les derviches.
Tout ça est fascinant. Nous aurions pu passer davantage de temps avec vous, Alexandre Papas, mais nous arrivons au terme de notre émission. Merci infiniment. Chers amis auditeurs, c'était Culture d'Islam. Vous retrouverez les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est Daphné Amkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Alain Joubert. Et la réalisation est toujours assumée par l'ami François Connac.